Je vous invite à se rentrer devant l'émission Dialogues du Congolais, présentée ce soir par Jean-Claude Toumba, ce mandat.
Bonsoir. Promulgation de loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'acte du président de la République est intervenu hier mardi. Quel est le contenu de cette loi? Quelles pourraient être les retombées de sa promulgation sur le fonctionnement de la justice? Voilà le thème de cette émission, Dialogue entre Congolais. Certains d'entre vous qui nous avaient écrit qualifient la promulgation de ce texte d'avancée significative, mais d'autres sont sceptiques et veulent savoir comment va fonctionner cet organe. Nous lirons ces réactions au cours de cette émission, mais pour une discussion, nous recevons comme invité le magistrat Samba Nkenda, président du syndicat autonome des magistrats du Congo Cinéma, maître Matadi Wamba, avocat à la Cour suprême de justice, ancien bâtonnier national et président du Parti travailliste libéral allié de l'Alliance de la majorité présidentielle AMP. Nous avons aussi Jacques Joly, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et sénateur du Mouvement pour la libération du Congo, MLC, nouvellement nommé secrétaire national de ce parti chargé de la décentralisation, sécurité et défense. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Promulgation de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Je vous l'ai dit, l'acte du président de la République est intervenu hier mardi. Quel est le contenu de cette loi? Le texte promulgué contient une quarantaine d'articles. Suivons les grandes lignes de cette loi avec notre confrère Guillaume Génapala.
Selon cette loi, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil, dit encore la loi, dispose notamment du pouvoir de proposer des nominations, promotions, mises à la retraite, révocations, démissions et réhabilitation des magistrats. C'est le même Conseil qui élabore et gère les budgets propres au pouvoir judiciaire. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Ils ont également ses avis en matière de recours en grâce. Le Conseil supérieur de la magistrature désigne, conformément à l'article 150, de la Constitution, trois membres de la Cour constitutionnelle. Le dit Conseil est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Quant à sa composition, le Conseil supérieur de la magistrature comprend 18 membres total, dont le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Conseil d'État, un auditeur et d'autres hauts magistrats. L'Assemblée générale en est l'organe d'orientation et des décisions dans les matières relevant de sa compétence. Avant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, des cours administratives d'appel ainsi que des parquets près les juridictions, le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne sur base de la Cour suprême de justice, du parquet général de la République ainsi que de la Haute Cour militaire. Et pendant ce temps, c'est le premier président de la Cour suprême de justice qui le préside.
Réaction dans les milieux des magistrats, René Sibou, président de notre syndicat des magistrats, justice indépendante, et qui est aussi président du tribunal de grande instance d'Ingili, se réjouit de cette promulgation et pense que cela va protéger davantage la carrière des magistrats. On écoute René Sibou au micro, au téléphone, pardon, de quel côté?
La promulgation en soi est une bonne chose. Ce texte vient un peu nommé dans la mesure où il vient compléter une sorte de kit législatif, comme on aime bien l'appeler. Parce qu'en fait, nous avions la Constitution qui avait consacré l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et puis nous avons eu le statut. Mais ce texte en soi ne suffisait pas parce que ça ne permettait pas d'exercer le pouvoir disciplinaire et de gérer la carrière des magistrats par ce Conseil supérieur de la magistrature. Alors, avec la nouvelle loi, ce Conseil peut maintenant fonctionner, le magistrat va se sentir sécurisé dans sa carrière en termes d'évolution, nomination, promotion en grade, mais aussi sécurisé dans sa discipline, c'est-à-dire qu'il ne serait pas soumis à l'arbitraire et des politiques et aussi de sa hiérarchie, qui a certainement un impact sur sa manière de travailler et par conséquent satisfaire les attentes de notre population.
C'était là donc le magistrat René Sibou. Nous avons un autre magistrat parmi les invités. Il s'agit de Samba Nkenda. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous sentez aussi sécurisé comme René Sibou, votre collègue magistrat?
Je suis très surpris d'entendre René vous parler, dire aujourd'hui que le vote de la loi est une bonne chose. Lui qui était monté au créneau à travers les radios et les télévisions pour dire que la loi ne passerait pas parce que au service de certains politiques, bon.
Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là pour répondre, malheureusement. Il ne faut pas.
Exactement, c'est ça. Oui. On se met toujours du côté de, de là où on peut tirer les faveurs. Mmh. Moi, je pense que même si le texte de loi est voté aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais il reste maintenant des grands défis à relever. C'est l'appropriation de l'indépendance par les magistrats eux-mêmes, ce qui implique la personnalité du magistrat, ce qui implique son savoir, ce qui implique sa condition de travail, ainsi de suite. Mmh. Aussi, même si la loi est votée, il y a aussi un autre défi à relever, c'est celui, en fait, du politique qui, en fait, doit procéder à l'application de cette loi. Vous savez quelle autorité politique nous avons. Voter la loi est une chose, mais l'appliquer est une autre. C'est là un grand défi, en mon sens, qui reste aussi à relever. Il y a aussi autre chose, c'est du côté du magistrat, je reviens encore une fois de plus, c'est les travers qu'on a souvent reprochés au magistrat. Est-ce que le magistrat va comprendre cette fois-ci qu'il est au service de la population et que la population doit trouver son compte dans l'exercice de sa profession? Voilà autant de défis qui nous attendent après le vote de cette loi-là.
Voilà. Nous avons aussi Maître Matadi Wamba. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Oui, Maître, le défi de l'application de la loi, c'est ça qui reste, comme le dit Samba et Mutenda. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, tout à fait d'accord, hein, parce que bon, la loi est là, et les anciennes lois étaient là, elles ne protégeaient pas moins les magistrats. Celle-ci peut-être donne un peu plus de garantie dans ce sens que, comme on le sait, depuis la constitution actuelle, les magistrats s'autodécritent, recrutent, s'autogèrent et... voilà, maintenant, c'est donc, comme le disait d'ailleurs le dernier intervenant tout à l'heure, ils vont se gérer entre eux. Est-ce que ça suffit et que ça protège autant? Moi, je crois que c'est d'abord, comme l'a dit le dernier intervenant, c'est le magistrat lui-même, par son propre comportement. Quand je dis le magistrat, je dis le fonctionnaire, n'importe lequel, et même dans notre carrière privée, mais c'est l'individu lui-même qui doit d'abord se protéger par son comportement, la qualité de son travail, et voilà, c'est ça l'essentiel. Mmh. Mais bon, la loi vient compléter, vient exécuter la Constitution qui veut que désormais les magistrats soient gérés par eux-mêmes.
Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est quand même un geste important au niveau de l'évolution ou même de la marche de la justice congolaise?
Bien sûr, parce que voilà, je disais que l'actuelle constitution veut que la magistrature soit un pouvoir à part, qu'il ne soit pas sous influence ni du législatif ni de l'exécutif. Et pour cela, la nouvelle constitution a voulu que les magistrats soient recrutés par eux-mêmes, les magistrats soient gérés par eux-mêmes, les magistrats, lorsqu'ils doivent aller à la pension, que ce soit les magistrats prévenus du Conseil supérieur de la magistrature, qui puissent faire tout cela, ceci dans l'intention du constituant pour soustraire les magistrats sous l'influence de deux autres pouvoirs. Donc, cette loi qui vient exécuter la Constitution pour que la disposition, je crois que c'est l'article 158 qu'on l'a cité tout à l'heure, soit effective. Donc cette loi est tout à fait en droite ligne de la volonté du constituant.
Voilà. Alors nous avons cet auditeur qui nous écrit, c'est Rodrigue Bourquetsou de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Lui pense que la promulgation de cette loi est une avancée significative car elle va étouffer l'intervention du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Pareil pour Kakuli Sefou, Gustave de Kalemi au Katanga, Isouex, pendant que cette justice soit impartiale. Nous avons professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes professeur de droit à l'Université de Kinshasa, on vous a déjà présenté, sénateur du MLC. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient d'être dit par Sambaï Mutenda, magistrat et l'avocat Matali Wamba?
Je crois que nous sommes tous unanimes pour dire que la promulgation de cette loi est un fait majeur, n'est-ce pas, dans l'évolution de notre système politique et judiciaire. Pour nous, parlementaires, c'est une joie particulière parce que nous croyons avoir contribué, n'est-ce pas, à l'élaboration, à l'adoption de ces textes et à son enrichissement conformément aux vœux, n'est-ce pas, de la population et dans l'esprit d'ailleurs, comme ont dit les autres, de la Constitution. Nous voulons une architecture politique où la séparation de pouvoir, principe cardinal de notre système, est assurée par une justice indépendante. Cette justice qui devra nous aider à asseoir le respect des droits de l'homme et créer des conditions de sécurité pour le développement économique. Donc nous croyons que c'est une avancée, mais comme les autres ont dit, adopter un texte, c'est bon, mais il faut surtout voir le comportement des acteurs.
Et par les magistrats.
Le magistrat, oui, mais à commencer par le politique. Je voudrais dire ici que nous espérons que finalement, le ministre de la Justice, qui s'était vertué pendant très longtemps à torpiller l'indépendance de la magistrature, il y a encore une semaine, il semble qu'il est descendu en Djili pour suspendre le magistrat.
En fait,
suspendre le magistrat, saisir des dossiers, semble-t-il, qui traînaient. Eh bien, nous croyons que finalement, il va cesser cette percée, et je ne voudrais pas dire aventure, dans ce secteur, pour laisser la justice, le magistrat, s'occuper de même. Mais ce ne veut pas dire que le magistrat doit tomber dans un corporatisme.
C'est-à-dire
que transformer le pouvoir judiciaire à un pouvoir patrimonial où il se protège. Ils doivent savoir que c'est une grande responsabilité qui leur confiée et qu'ils doivent rendre justice au nom du peuple, dans l'attente du peuple. Et comme les autres l'ont dit, l'indépendance du magistrat n'est pas simplement un problème de pouvoir économique. D'autant plus que nous savons que dans notre pays, la corruption est surtout développée dans le milieu où il y a beaucoup d'argent, même s'il y a une corruption de suivi à la base. Ce n'est pas un problème économique, même si les garanties économiques sont nécessaires. Ce n'est pas non plus un problème de texte. Nous savons dans l'histoire constitutionnelle que la conquête de la liberté est une conquête d'abord du magistrat. Comme a dit notre ami, il doit savoir faire jouer sa personnalité, sa conviction, pour que finalement la population puisse avoir confiance à cette justice et que cette justice nous serve clairement des garde-fous aux égarements de pouvoir, parce que il est important de savoir que on peut être politiquement majoritaire, mais n'avoir pas toujours juridiquement tort, et il appartient dans une démocratie constitutionnelle que la justice assure ses rôles de protection des droits politiques et des droits individuels.
Donc on retient que pour vous là, c'est une grande responsabilité pour les magistrats, mais reste aussi le rôle que doivent jouer les politiques. Là vous avez parlé donc des membres du gouvernement qui doivent éviter d'interférer maintenant dans le fonctionnement de la justice.
Tout à fait. Je voudrais dire que c'est une grande révolution en termes de vision, parce que nous avons fait une avancée. Le ministre de la Justice n'est plus membre du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une avancée fondamentale parce que même les pays comme la France, les ministres de la Justice continuent à faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats n'ont pas voulu que d'autres corps viennent dans leur corps. Donc, la justice sera autonome, c'est un pouvoir comme tous les autres pouvoirs, ce n'est pas une autorité comme dans la Constitution française,
oui.
C'est un pouvoir autonome, c'est un pouvoir indépendant, mais comme chaque pouvoir, ce pouvoir judiciaire répond aussi vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la nation.
Oui, mais juste une petite question qui me vient à l'esprit, professeur Joly, et sénateur aussi. Que deviendra finalement le rôle du ministre de la Justice? Puisqu'il ne fera plus partie du Conseil supérieur de la magistrature.
Non, le ministre de la Justice était membre du gouvernement. La politique judiciaire ou la politique en matière de justice n'est pas... les magistrats ne font pas de la politique. Et n'oubliez pas que le chef de l'État, même s'il ne fait pas partie du conseil judiciaire, conseil supérieur de la magistrature, eh bien, les propositions, parce qu'il s'agit des propositions, vont aller sur le chef de l'État. Et le chef de l'État, pour les signer, pour certains actes, doit avoir le contre-sens de soi du Premier ministre. Et à ce moment-là, le ministre de la Justice peut librement, s'il est consulté par le chef de l'État, émettre son avis à l'interne. Parce que le chef d'État peut faire des observations dans l'esprit de la loi si une nomination pose un certain nombre de problèmes, notamment l'équilibre. Donc, il peut garder son poste de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme sans interférer dans la carrière du magistrat.
Merci beaucoup, professeur Angeli. On va continuer cette émission. Promulgation mardi dernier de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Quelles pourraient être les retombées de sa promulgation sur le fonctionnement de la justice? C'est l'objet de discussion dans la deuxième partie de cette émission, mais avant cela, le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 758.
Promulgation mardi dernier de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Quelles pourraient être les retombées de sa promulgation sur le fonctionnement de la justice? En province, un avocat du barreau de Kananga, mais aussi de Kinshasa Gombe, estime que cette loi ne changera en rien le fonctionnement de la justice congolaise. Selon Maître Zachary Kenda Moulangala, il ne revient pas au président de la République de nommer ou de sanctionner les magistrats. Pour lui, c'est déjà un signe que rien ne va changer. On écoute Zachary Kenda Moulangala, avocat au barreau de Kananga et Kinshasa Gombe au téléphone de Kélinkouté.
Quand je compare toutes les législatives qui se sont succédées dans ce pays, je constate avec constance que rien n'a changé, ni dans les lettres, ni dans l'esprit, à ce que concerne la magistrature. Même si les tenants du positivisme tentent de faire croire que les choses sont en train de changer, mais peut-être sur les papiers et dans les déclarations, dans les radios, dans les médias, mais concrètement sur le terrain, rien n'envisage qu'avec cette promulgation, quelque chose peut changer. Aujourd'hui, quand nous continuons à laisser la tâche de nomination au magistrat par le président de la République, quand nous laissons les contrôles, les sanctions au président de la République, moi je crois qu'il n'y aura rien qui aura à changer. Que les magistrats entre eux-mêmes se fassent des promotions compte tenu des mérites des uns des autres, je crois que ça serait une expérience nouvelle. Et je crois aussi que nous échapperons peut-être aux règles et aux agissements et aux us et coutumes de ce que nous déplorons chaque jour.
Magistrat Samba Mutenda, vous répondez comment à ceux qui pensent que le président de la République a encore certains pouvoirs qui pourraient perturber le bon fonctionnement de ce conseil?
Non, je ne pense pas que cela puisse être le cas parce que il ne va pas jouer en interne. Son rôle, en fait, c'est il exerce son rôle en tant, permettez-moi le terme, en tant que souverain, celui qui contribue à la bonne régulation des institutions de la République, comme il le fait pour la bonne marche du Parlement, pour la bonne marche du gouvernement, et il pourra aussi veiller à la bonne administration de la justice de manière tout à fait extérieure. Mais je pense que, contrairement à ce qu'ils disent, les choses pourront changer moyennant l'accomplissement de certains préalables, comme je lis.
Je l'ai dit
tout à l'heure, que le président de la République s'investisse dans l'application de la loi qui a été votée. C'est une chose importante à laquelle il faudra veiller. Que les magistrats eux-mêmes concernés s'assument sur le plan de la personnalité, sur le plan de l'éthique sociale. Ce sont des choses qui doivent nécessairement être respectées. Et que, en définitive, les magistrats comprennent qu'ils ne peuvent bien se gérer qu'en restant, en toutes circonstances, respectueux des règles, des principes qui régissent notre communauté.
Voilà.
Vous comprenez ce que,
oui, voilà pourquoi il y a un auditeur qui nous écrit, Jean, il nous écrit depuis Cassis au Katanga. Lui pense que voter une loi pour le magistrat ne changera rien, d'autant plus qu'ils sont corrompus, ça c'est lui qui dit. Il faut plutôt les recycler, donc vous recycler, en organisant des séminaires de formation à votre intention. Qu'est-ce que vous en dites?
mais le recyclage ne va pas enlever la corruption. La corruption aujourd'hui, c'est un mal congolais, c'est un fléau. Voilà pourquoi je parle de la personnalité de l'homme politique.
Mais vous avez un grand rôle,
du magistrat. En fait, la personnalité du Congolais en général. Le magistrat, c'est en fait un échantillon de la communauté congolaise qui traîne dans la corruption. C'est un mal que nous tous, nous devons essayer d'évacuer de notre vécu quotidien.
Mais vous avez
pas
un grand rôle.
Mal qui ne vit que à travers la magistrature, non. Mmh. Vous avez la politique, vous avez l'enseignement, vous avez... Tous les domaines, tous les secteurs de la vie sociale sont infectés.
Il faut prendre
une conscience nationale résolue de manière à avoir évacué, c'est une façon de dire, avoir banalisé la corruption, la diminuer autant que possible.
Voilà, là vous avez répondu à cet auditeur, mais on revient à cette loi sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Oui.
Le budget du pouvoir judiciaire sera désormais élaboré par le Conseil, et ça sera à partir de quand, notamment l'exercice prochain déjà?
Bon, je ne sais pas, ça appartient en fait aux autorités qui vont bientôt réguler le pouvoir judiciaire. La loi vient d'être votée en cours de l'année. Vous savez que pour qu'un service fonctionne, il faut que son fonctionnement ait été prévu dans le budget. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on va sortir des fonds pour directement procéder au fonctionnement du pouvoir judiciaire ou en fait du Conseil supérieur? J'ose penser peut-être que les politiques y avaient pensé, mais je ne pense pas qu'ils y aient réellement pensé. J'ose espérer. Là, je ne saurais pas entrer dans le secret de sexe des hommes.
Maître Matadi Wamba, finalement, le budget, le Conseil supérieur de la magistrature va permettre au pouvoir judiciaire de se doter d'un budget autonome. À quoi servirait ce budget?
Je crois, sauf erreur de ma part, je ne suis pas au Parlement, mais le sénateur Dury pourra... me reprendre si je fais fausse route. Je crois que l'actuel budget des magistrats a été préparé par eux-mêmes et remis au gouvernement qui a défendu tout le projet, n'est-ce pas? Tout le projet, c'est-à-dire tout le budget ensemble. Parce que si les magistrats ont le pouvoir constitutionnel de préparer leur budget, eh bien, n'empêche que, finalement, c'est le gouvernement qui défend le budget dans son ensemble, donc y compris le projet ou le pré-projet des magistrats. Mais je voulais dire ceci, que cette loi, elle est bonne parce qu'elle vient compléter la Constitution, parce qu'elle donne aux magistrats, maintenant, si vous voulez, les pleins pouvoirs pour s'autogérer, pour se gérer eux-mêmes. Bon, mais je voulais faire constater une chose, c'est que, s'agissant du ministre de la Justice, puisque tout à l'heure on l'a épinglé, ah non, il ne va plus révoquer les magistrats, bon, c'est vrai, il ne va plus les suspendre, c'est vrai. Mais il faut qu'on remarque, il faut que les Congolais remarquent, constatent ceci que, en ce qui concerne la responsabilité de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir, devant le Parlement, qui va pouvoir répondre, n'est-ce pas, lorsqu'il y a à interpeller ou à poser une question orale au magistrat, sera le ministre de la Justice, comme c'était le cas jusqu'à présent, ou ce sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Là, il y a un problème puisque j'étais au Parlement lorsqu'on a discuté, n'est-ce pas, de cet article de la Constitution, qui institue le Conseil supérieur de la magistrature et qui exclut les membres du gouvernement, notamment le chef de l'État, le ministre de la Justice. Il y a ce problème-là. Comment on va faire? Est-ce que désormais, ce sera le président de la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour suprême aujourd'hui, parce que c'est ça qui fait fonction de n'est-ce pas, d'autorité supérieure chez les magistrats, et que c'est lui qui va répondre de la bonne marche devant le Parlement. Voilà donc ce que j'avais à dire. Sinon, pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce que les amis viennent de dire. Et je souligne que par le fait que les magistrats vont se gérer eux-mêmes,
il est fait appel à leur esprit de responsabilité. Mmh. Ces erreurs eux-mêmes se croient ici. C'est d'abord aussi la discipline au sein du corps. Ça ne sera plus le gouvernement qui va dire...
Qui les sanctionner, par exemple, les suspendre comme les têtes
oui,
de l'histoire de Gilles.
Oui, c'est ça. Ou non, qui va, par exemple, engager les actions disciplinaires. Ça sera les magistrats. Et si ce travail d'autodiscipline se fait correctement, régulièrement, sans parti pris, eh bien, en ce moment-là, plus le fait qu'il y aura des salaires, on espère, consistants, et la discipline et le bon comportement des magistrats va certainement se faire voir dans quelques années, dans quelques mois.
Voilà.
Voilà ce que j'avais à dire.
Voilà. Puisque vous avez soulevé le problème des salaires, donc on revient à la question du budget, professeur et sénateur Jacques Joly, finalement, le budget autonome que le Conseil va voter pour le pouvoir judiciaire, il va servir à quoi ce budget-là?
Non, je crois que là, il faudra vraiment que nous fassions tous un effort pour comprendre la révolution, si pas, il faut parler d'un terme beaucoup moins percutant, on va peut-être de la réforme. Mais les textes sur le Conseil supérieur de la magistrature font partie d'un kit. Nous avons eu la Constitution, nous avons le statut du magistrat. Nous avons maintenant cette sur le Conseil supérieur de la magistrature, et nous allons avoir d'autres textes qui vont suivre, notamment sur l'organisation concernant de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État. Et c'est lorsque nous aurons cet ensemble que nous aurons finalement le nouvel ordonnancement du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne le budget, nous sommes au mois d'août. Le budget sera présenté au mois de septembre. Donc, nous espérons et nous sommes convaincus que lorsque le gouvernement viendra avec ses budgets, ben, comme dans l'ensemble du processus budgétaire, il y a deux moments d'aménagement, d'équilibrage. Donc, le pouvoir judiciaire tel qu'organisé maintenant, parce que dans les textes, il y a des dispositions transitoires qui nous expliquent comment le Conseil supérieur va fonctionner en attendant la mise en place des autres structures.
On parle de la Cour suprême de justice notamment.
Oui, donc les premiers présidents de la Cour suprême de la justice qui assurent le rôle que devait jouer demain le président de la Cour constitutionnelle, eh bien, il va préparer les textes et dans l'ensemble du processus budgétaire, avec les réaménagements, nous trouverons, n'est-ce pas, un budget susceptible d'aider la mise en place, n'est-ce pas, de la nouvelle articulation judiciaire et politique. Donc, je crois qu'il n'y a pas encore le feu à la demeure et nous pouvons faire confiance. N'oublions pas que, outre le conseil de ces textes, il va y avoir aussi un règlement intérieur qui va organiser notamment le conseil de l'Assemblée Générale et autres. Mais en ce qui concerne le mécanisme budgétaire, c'est prévu dans les textes et il n'y a pas de problème.
Oui. Et il y a la question qu'a soulevé Maître Matadi Wamba, c'est qui va répondre? Est-ce qu'il y a des problèmes liés à la justice?
Non, le ministre de la Justice, c'est là où nous devons comprendre la nouvelle articulation constitutionnelle. C'est un choix. Un choix qui a été entériné par la population, le peuple congolais, lors du référendum. C'est-à-dire d'avoir un pouvoir judiciaire géré par le magistrat qui répond, comme toutes les autres institutions, devant la nation. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que lorsqu'on dit que le pouvoir sont séparés, ça ne veut pas dire que le pouvoir sont isolés. Sur le plan pratique, nous avons vu ce qu'on appelle l'organe interinstitutionnel, de réunion interinstitutionnelle, où le président de la République et les deux premiers présidents, les deux présidents de l'Assemblée nationale, et du Sénat, ainsi que les représentants du pouvoir judiciaire, se retrouvent parce que le pouvoir peut être séparé, mais reste un, c'est-à-dire le pouvoir de l'État. Donc il y aura certainement des lieux de convergence et de discussion, sans pour autant entamer l'autonomie et l'indépendance de chaque pouvoir. Autre chose, dans la Constitution, il est dit que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de proposition. Ces propositions sont transmises au président de la République. Le président de la République étant politiquement irresponsable, c'est le premier ministre qui contresigne, n'est-ce pas, ces actes du président de la République.
Politiquement irresponsable, ça ne sont pas mal interprétés. Hein?
Oui, voilà, je n'ai pas le juridique.
Voilà.
Donc, par le contestant. C'est le premier ministre qui engage sa responsabilité. Donc, nous ne sommes pas dans un système d'irresponsabilité illimitée. Non, le système est organisé, c'est une expérience nouvelle, on va voir, et s'il y a des aménagements, la Constitution n'est pas une tente dressée pour l'éternité.
Mais qui va répondre? On revient encore à la question. C'est le ministre de la Justice ou c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature? S'il y a des questions, hein, il faut interpeller le pouvoir judiciaire. Qui répond?
L'interpeller devant qui? Le pouvoir judiciaire est indépendant, nous l'avons dit. Pourquoi le pouvoir judiciaire va... Pourquoi le pouvoir législatif va se mêler? Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, la Cour suprême avait rendu un certain nombre d'arrêts que nous avons estimé ne pas être conforme, soit entre guillemets,
au niveau du Parlement, en fait.
Vous avez suivi la réaction de la Cour suprême. Le pouvoir législatif n'a pas cédé. D'ailleurs, la Constitution le dit. Le pouvoir judiciaire ne reçoit d'injonction ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir judiciaire. C'est un système que nous avons mis en place. Ce n'est pas... nous qui inventons la roue.
Oui.
Aux États-Unis, il y a bien sûr un secrétaire d'État, mais le président de la République a toujours la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir une probabilité. Les institutions, encore une fois, je voudrais vous dire, ne sont pas articulées pour s'opposer. Elles sont articulées pour regarder dans la même direction, parce que les pouvoirs ne sont pas isolés, les pouvoirs sont séparés, mais le pouvoir est un.
Voilà. Magistrat Samba Mukenda, le plus concerné hein, par ce sujet et par le Conseil supérieur de la magistrature, je reviens à la question du budget. Est-ce que le budget va finalement améliorer vos salaires, par exemple?
Bon, entre autres, hein, l'amélioration des rémunérations, l'amélioration des conditions de travail, surtout. Il n'y a pas que la rémunération, les conditions de travail. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de visiter certains parquets, y compris ceux de la ville de Kinshasa. Je vous invite à visiter le parquet de Matete, le grand instance de Matete, mais c'est abominable.
Oui, ça sent la piste partout. Voilà.
Vous comprenez? Donc il y a cette... le fonctionnement, disons, les structures devant abriter le pouvoir judiciaire, devant abriter les cours et tribunaux. Je ne sais pas si peut-être quel aménagement pourra être fait au niveau du pouvoir législatif, mais nous pensons, nous, que dans ce budget, on devrait aussi penser en fait aux structures qui abritent les parquets et les juridictions. En plus, il y a la sécurité sociale. Mon magistrat aujourd'hui, quand il est malade, je ne sais pas si vous savez que c'est la misère, qu'il soit soigné, c'est un problème. Donc tout l'environnement, l'objectif quotidien du magistrat devrait trouver son compte dans ce budget-là.
Mmh.
Vous comprenez? Et bien alors, permettez que je soulève quand même, j'aborde un petit problème qui a été posé par Maître Matadi Wamba. Je pense qu'il a perdu de vue l'origine, en fait, de l'équilibre des pouvoirs, tel que enseigné par Montesquieu. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que les trois pouvoirs existent que ces pouvoirs ne coexistent pas, ne collaborent pas. Celui qui a inventé le système a pensé en fait à une collaboration entre pouvoirs. Et en même temps qu'il prescrivait donc la séparation des pouvoirs, il a pensé aussi que les trois pouvoirs devaient coexister dans la paix de manière horizontale que verticale. Donc je pense, moi, si lui pense à l'interpellation du pouvoir exécutif par le Parlement, que cela devait se faire aussi au niveau du pouvoir judiciaire, je pense que c'est quelque part, il a perdu de vue les notions auxquelles je viens de faire allusion maintenant. Les trois pouvoirs sont indépendants,
mais
ils doivent, comme l'a dit tout à l'heure le dernier intervenant, trouver un modus vivendi au niveau des sommets, des trois sommets.
Oui. Mais alors, au niveau de la population, parce que là, on sent que c'est
beaucoup
plus aux intérêts, magistrat Sambaï. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature va, par exemple, régler ce problème au niveau de Bandundu, district de Plateau, deux magistrats pour quatre territoires? Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature va régler ce problème de carence, par exemple, de magistrats à l'intérieur du pays?
Bien sûr. Voilà pourquoi nous nous battions, parce que nous savons que le magistrat a une idée du fonctionnement du corps.
il devra penser à l'équilibre national sur la répartition, concernant la répartition des cours et tribunaux à travers la République, ainsi que la répartition des magistrats devant animer les structures nationales sur toute l'étendue de la République.
Alors, on revient vers vous, Maître Matadi Wamba. Finalement, quels bénéfices les Congolais, eux, vont tirer de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, puisque la loi vient d'être promulguée?
Mais le dernier intervenant, vous veniez de poser la question de savoir si le Conseil supérieur de magistrature va veiller à l'affectation des magistrats là où il en manque. Mmh. Justement, c'est ça le problème. Il faudra un budget conséquent pour que les budgets conséquents concernant notamment, on ne l'a pas dit tout à l'heure, les frais de mutation. Les magistrats aujourd'hui sont mutés à gauche, à droite, à Kengue chez moi. Ils ne partent pas parce qu'il n'y a pas de frais de mutation. Donc c'est tout cela qui va pouvoir suivre pour que les magistrats puissent fonctionner, puissent exercer dans des conditions normales. Hein, mmh. Qu'ils soient soignés, qu'on puisse payer leurs frais de déplacement, que s'il y en a qui meurent, qu'on puisse les désenterrer dignement. Voilà. Tout cela donc doit être prévu dans le budget pour que cette branche donc du pouvoir congolais puisse fonctionner comme les autres branches. Alors je reviens à ce que j'ai entendu tout à l'heure. On vient de dire là-bas où je crois que c'est vous-même qui l'avez dit, vous maintenant, mais il a perdu de vue qu'il y a la séparation.
Non, c'est pas moi. C'est pas moi.
Je n'ai pas perdu de vue que la séparation de pouvoir existe. Eh bien, parce que la séparation de pouvoir existe, d'un côté, mais chaque pouvoir a ses attributions. Et c'est dans les attributions du pouvoir législatif de contrôler tous les actes que l'on pose dans le pays, les actes du gouvernement, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que le Parlement ne contrôle que le gouvernement et pas l'autre pouvoir, l'autre branche du pouvoir que la justice, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut imaginer que les magistrats qui s'autogèrent, lorsqu'il y a des erreurs graves, lorsqu'il y a des fautes graves qui se commettent, eh bien, ils sont les seuls à traiter ça. Non, il faut qu'un autre pouvoir contrôle un autre pouvoir, c'est-à-dire le législatif, contrôle comme il contrôle le gouvernement. Parce que la Constitution ne soustrait pas le pouvoir judiciaire du contrôle du Parlement. Il y a un silence. Mmh. Et ce silence-là est dû justement à la discordance dans les textes.
Voilà.
Au lieu que nous puissions suivre ce qui se trouve que nous avons, notre Constitution est un calque de la Constitution française, nous aurions dû, n'est-ce pas, veiller à ce que le gouvernement, le ministre de la Justice, soit dans le Conseil supérieur de la magistrature pour que le moment venu, si on doit demander des comptes à ce pouvoir, et que ce ne soit pas le magistrat qui aille là-bas, mais que ce soit plutôt le gouvernement par le biais du ministre de la Justice. Je voulais justement dire que je n'ai pas perdu de vue, que j'ai voulu soulever une incohérence.
Maître Matadi Wamba, nous poursuivons cette émission avec les réactions des auditeurs qui nous arrivent. Nous avons de Bukavu, Robert Bahomé, lui veut savoir si, avec le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice peut encore avoir à dire sur la magistrature et que prévoit justement cette loi par rapport au ministère de la Justice. Rapidement, peut-être avec vous, Jacques Joly.
Je crois que nous l'avons dit tout au long de cette émission, il s'agit d'une nouvelle réarticulation de notre système politico-judiciaire. Le ministre de la Justice n'intervient plus dans la gestion quotidienne, n'est-ce pas, de la magistrature. Et le ministre de la Justice fait partie du gouvernement et le chef de l'État, le président de la République, étant, n'est-ce pas, un des membres, sans pour autant entrer intégralement dans le conseil supérieur de la magistrature, intervient comme autorité de sanction. Et dans cette mission, il est aidé par le premier ministre, par les contre-saints et le ministre de la Justice. Je crois qu'il y a aussi un problème de la politique criminelle. Encore une fois, nous devons avoir une vue, n'est-ce pas, intégrée des institutions. le juge dit la loi. Le juge ne fait pas la loi. Donc la loi sera faite par le pouvoir législatif. Mais le proposition de loi ou le projet de loi ne viendront pas du pouvoir judiciaire. Donc, par la loi, nous pouvons orienter, n'est-ce pas, la politique criminelle de la nation.
Merci beaucoup.
Politique criminelle qui sera mise en œuvre par le juge. Donc, il ne faut pas avoir peur.
Oui.
C'est vrai que c'est une expérience nouvelle, mais il y a des pays où, n'est-ce pas, c'est un membre du Parlement qui est chancelier de l'échiquier, comme en Grande-Bretagne, c'est-à-dire membre du législatif.
Oui. Merci beaucoup, professeur Jacques-Julie. Nous recevons Titi Poutou pour les autres réactions des auditeurs. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. Placide Makashi, depuis Kinshasa, affirme que le problème de la RDC ne se situe pas dans les textes, mais plutôt dans l'application de ceux-ci. Il propose que l'État congolais fasse venir les magistrats de l'étranger afin que ces derniers coachent leurs collègues de la RDC.
On poursuit.
La promulgation de la loi est une loi, son application en est une autre. Pour sa réussite, il faut des mesures d'accompagnement appropriées, sinon cette loi risque de se retrouver au musée, estime Alain Kombe de Bounia en province orientale. Jean-Pierre Kézamoudrou d'Iziro, en province orientale, abonde dans le même sens. Selon lui, plusieurs lois ont été promulguées sans être appliquées dans la réalité. De l'Embassalongo à Kinshasa, Boniface veut savoir si avec cette loi, la magistrature cessera d'être l'institution la plus corrompue du pays. Quant à Prosper PPNL de Barumbu à Kinshasa, il estime que le défi dont on parle ne dépend pas seulement du politique, mais la responsabilité revient aux magistrats eux-mêmes, surtout en matière de lutte contre la corruption. Enfin, Boutiedo de Lubumbashi au Katanga réagit en ces mots, je cite, « Est-ce que cette loi est un remède à notre justice déjà agonisante, ou plutôt un allègement de la souffrance des Congolais ?» s'interroge-t-il.
Merci beaucoup, Titi Mpoutou, et puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, rapidement, avec le magistrat Samba Mutenda, président du syndicat autonome des magistrats du Congo, vous avez vu là plusieurs fois corruption. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les magistrats congolais ne soient plus corrompus et qu'on n'ait pas à recourir à des magistrats étrangers, comme l'a dit Placide Makashi?
Non, je pense qu'il a perdu de vue que le pouvoir de souveraineté qui s'exerce à travers les institutions de la République. C'est un point de vue que je ne serais pas sûr. Mais je pense que, je l'ai dit au début de notre propos, que le problème de corruption, c'est un fléau national. Ce mal est répandu dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est un problème que nous tous devons prendre à bras le corps.
Oui,
que nous soyons.
Ouais. Excusez-moi, magistrat Samba, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais avec le Conseil supérieur de la magistrature, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez vous faire pour lutter contre la corruption? Rapidement.
Je vous dis que actuellement, déjà, peut-être que vous ne l'avez pas suivi, le syndicat autonome des magistrats a entrepris une tournée à travers la ville de Kinshasa. Dans cette tournée, quelle est sa préoccupation? C'est le réarmement moral des magistrats, le devoir éthique, les obligations et les droits sont expliqués aux magistrats et l'invitation leur est faite de respecter la loi ainsi que de tous les autres textes de loi qu'ils viennent. Pour que au moins la population puisse avoir confiance dans la justice de la République.
Merci beaucoup.
Et je vous dis que cette tournée va se poursuivre à travers la République à partir vers le 17 déjà. Nous serons déjà au Kivu et ainsi de suite. Nous allons faire la tournée de la.
Merci voilà. Beaucoup.
Donc, nous avons entrepris de réarmer les magistrats moralement.
Voilà, bon, ça c'est un peu de pub aussi, décidément. Rapidement, peut-être en quelques secondes seulement, Jacques Joly, la corruption des magistrats, comment y mettre en un mot?
Non, la corruption des magistrats, comme nous l'avons dit, c'est un phénomène social, un racinement culturel, mais il appartient d'abord au magistrat lui-même, en termes de personnalité, de s'assumer et, n'est-ce pas, d'assurer ce qu'on appelle l'impartialité ou l'intégrité.
Merci beaucoup.
Ce n'est pas une libération qui viendra de l'extérieur, mais de lui-même.
Merci beaucoup.
Et ça, nous attendons de lui qu'il puisse s'assumer et en termes de responsabilité.
Merci beaucoup, Jacques. Je lis avec vous que nous terminons cette émission.
William Longamba était à la technique, réalisation Claude Kianda avec le concours de Guy Roger Nyampala, Guy Maté, Kelly Kouté, Titi Mpoto devant le micro d'Anton Toumba Kamanga. Merci de nous avoir suivis. Oh, coffee, oh, coffee.